RCF.
Voilà donc l'illustre théâtre installé de nouveau à Paris, qui devient en quelque sorte la troupe de Philippe d'Orléans, frère unique du roi Louis XIV, et il advient le miracle des précieuses ridicules. En quoi est-ce que cette pièce de Molière constitue un tournant ?
Alors, Molière a jusqu'ici écrit trois pièces, outre les petites farces, hein, les petites
parliez,
comédies,
ouais.
Voilà. Il a écrit trois pièces qui sont L'étourdi ou les contretemps, Le dépit amoureux. Il a écrit une pièce qu'il n'a pas encore fait représenter, mais elle est prête, qui va s'appeler Don Garcia de Navarre, qui va être un échec et qui va paraître posthume après sa mort. Donc il s'installe à Paris, il commence à jouer à Paris en novembre 1658. Il joue avec grand succès les deux premières grandes comédies de Molière, donc L'étourdi et Le dépit amoureux, qui passent pour nouvelles, puisque les Parisiens ne les ont pas vues. Ils font des reprises, évidemment, d'autres pièces, de tragédies, de Corneille, de Rotrou, beaucoup de comédies de Scarron, et de Thomas Corneille, du jeune frère de Corneille. Et il se trouve qu'ils engagent à Pâques 59 deux vieux comédiens, dont un est très célèbre, il s'appelle Jodelet, c'est le grand comédien comique depuis 25 ans. Corneille a écrit des pièces pour lui, Scarron écrit des pièces pour lui, Thomas Corneille écrit des pièces pour lui, Jodelet, c'est pas son vrai nom, c'est Julien Bedeau, dit Jodelet, donc c'est un farceur à l'origine. Un grand maigre, visage enfariné, qui parle du nez parce qu'il a eu autrefois la petite vérole qui lui a troué le palais, etc., etc. Spécialisé dans les rôles de paysan, de rustre, qui, par les circonstances, est obligé de revêtir un habit d'aristocrate ou le prince, etc. Et évidemment, tout joue sur le rapport entre l'être et le paraître. Et il se trouve que deux comédiennes de la troupe de Molière passent au Théâtre du Marais, qui est en train de se rouvrir, et on fait sortir de leur retraite les deux vieux, Jodelet et son frère. On met alors à ce moment-là à outrance les pièces dans lesquelles Jodelet triomphe, et grâce au registre de Lagrange, on voit que les recettes ne suivent pas. C'est l'engagement de Jodelet, de ce point de vue-là, c'est un échec parce qu'il n'y a pas plus de recettes que quand il joue les autres pièces du répertoire. Et ça veut dire que Jodelet est fatigué. Tout le monde connaît par cœur ses pièces. Et donc, Molière a l'idée géniale de se dire, bon, je vais écrire une pochade, comme je faisais en province, là, comme ça, pour me distinguer des autres troupes, je vais écrire une petite pochade. Il n'avait pas encore l'habitude, à ce moment-là, de placer systématiquement à Paris des petites comédies pour finir la séance. Je vais écrire une pochade dans laquelle, avec Jodelet déguisé en homme du monde, en petit marquis, etc., etc., et moi-même, je vais me mettre à côté de lui dans le même rôle. Et il se trouve que venait de sortir, à l'époque, la nouvelle édition d'un livre d'un homme très célèbre à l'époque, romancier, etc., etc., qui s'appelait Charles Sorel, l'auteur du célèbre roman comique, qui s'appelait « Les lois de la galanterie ». C'est une parodie de la manière dont on se comporte dans les milieux galants lorsqu'on est invité dans les salons, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Il y a un passage dans lequel il dit « Lorsque vous êtes invité dans le salon d'une dame, lorsqu'on vous a invité à entrer et que vous l'aurez profondément salué en avançant et de droite et de gauche, comme on dirait, en vous dandinant, et quand vous aurez invité à prendre siège, vous installer dans un fauteuil, vous sortirez de votre poche un peigne à larges dents et vous affecterez de vous peigner la perruque. » Et c'est exactement ce que va faire le valet de Mascarille, devenu marquis de Mascarille, joué par Molière, dans Les Précieuses Ridicules. Et tout d'un coup, le public qui avait l'habitude de voir des jeunes gens qui tombent amoureux de jeunes filles, comme dans les Faubourgs de Scapin de Molière, vous voyez le schéma de la comédie à l'italienne, ou des comédies à l'espagnole, ou des grands seigneurs tombent amoureux de jeunes femmes masquées, etc., etc. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient sur la scène des personnages, bien sûr, ridiculement attifés, mais qui sont le marquis de Mascarille, le vicomte de Jodelet, qui sont à la mode, mais une mode exagérée, ils ont encore plus de rubans, les canons sont plus larges, les talons des chaussures du marquis de Mascarille sont beaucoup plus hautes, etc. Et les jeunes filles, au lieu d'être les dames galantes qui règnent sur les salons, ils imaginent que ça va être Madelon et Cathos, deux jeunes filles arrivées de leur province, qui, nourrie des grands romans galants de l'époque, ceux qu'on lisait dans les salons mondains, de Mademoiselle de Scudéry notamment, croient qu'elles vont être séduites par des grands seigneurs qui vont immédiatement venir leur faire une cour merveilleuse. Et du coup, elles rejettent des jeunes bourgeois qui étaient venus leur faire leur cour. Et c'est comme ça que les jeunes bourgeois leur envoient des valets déguisés en marquis galants. Du coup, ça devient donc une parodie des comportements. Et c'est la première fois que les contemporains voyaient ça. Y compris dans les milieux galants, où le sens de l'autodérision était extrême. Et c'est eux qui ont fait le succès.
Et donc c'est un triomphe ?
C'est un triomphe, absolu. Et il faut savoir que comme c'est une petite pièce en un acte, ce qu'on appelait alors une farce, Molière l'avait prévu pour accompagner une grande pièce. Mais les gens se précipitaient au théâtre, non pas pour voir les cinq actes de Tragédie grecque, mais pour voir la dernière partie, parce que c'était en fin de pièce. Et il se trouve que ce qui va aussi révolutionner la chose, c'est que la pièce a un tel succès qu'il y a un libraire, ce qu'on appelait un libraire à l'époque, les libraires étaient libraires-éditeurs, il n'y avait pas d'éditeur tout court comme aujourd'hui. Un libraire à l'époque envoie des sténographes pour prendre à la volée la pièce de Molière et pour la publier pour son compte. Il paye un auteur inconnu à l'époque qui écrit « Les véritables précieuses ». C'est-à-dire qu'il veut faire un coup double de librairie, publier les précieuses ridicules de Molière et en même temps les véritables précieuses décalquées sur les précieuses ridicules de Molière, etc. Et c'est là que les libraires se rendent compte, les autres, qu'il y a un des leurs qui est en train de déposer un privilège pour la pièce de Molière. Et ils s'aperçoivent que Molière, il n'est pas au courant. Et donc ils vont voir Molière en lui disant ça. Et du coup, Molière, il passe un accord avec l'un des libraires qui est venu le prévenir. Et c'est comme ça que pour la première fois, une petite farce en un acte qui normalement destiné à ne pas être publié, est publié. Mmh. Et c'est ainsi que du coup, Molière va publier ensuite, quelques mois plus tard, il va passer à Sganarell ou le Cocu imaginaire, qui va être victime du même tentative de piratage, qui va réussir cette fois-ci. Ce qui n'était rien et qu'on appelait farce va devenir comédie.
Et va se diffuser.
Va se diffuser, et c'est comme ça que Molière, tout naturellement, va en écrire d'autres, des pièces en un acte.
Mais n'admirez-vous pas aussi... Je n'y prenais pas garde. Je n'apercevais pas cela, façon de parler naturelle. Je n'y prenais pas garde, tandis que sans songer à mal, tandis qu'innocemment, sans malice, comme un pauvre mouton, je vous regarde. C'est-à-dire, je m'amuse à vous considérer. Je vous observe. Je vous contemple. Votre œil en tapis noir. Que vous semble de ce mot, tapis noir? N'est-il pas bien choisi?
Tout à fait bien!
En cachette, tapis-moi!
Il est toujours sous la protection de Philippe d'Orléans?
Oui, jusqu'en 1665, quand Louis XIV décide que, décidément, son frère a trop de choses, et donc il prend la troupe sous son patronage. Avec une subvention de 6000 livres par an.
Donc ils sont à l'abri du besoin désormais.
Voilà, et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir instaurer à leur tour, comme le théâtre de Bourgogne, parce que c'est la troupe du roi, elle s'appelle la troupe royale à l'hôtel de Bourgogne, et eux, ils vont s'appeler la troupe du roi. À l'hôtel de Bourgogne, ils ont une subvention annuelle aussi de 12 000 livres, beaucoup plus élevée. Mais c'est ça qui leur permet d'inventer quelque chose qui aujourd'hui nous paraît naturel, mais qui est inventé au XVIIe siècle chez les comédiens. La pension de retraite. Lorsqu'un comédien se retire de la troupe, eh bien, il part avec une pension.
Il se marie, oui. Mais il faut quand même revenir un petit peu sur cette partie de sa vie qui est importante,
oui,
aussi.
Alors, il se marie avec une jeune femme qui a 21 ans de moins que lui, qui s'appelle Armande Grézède Claire Elisabeth Béjart.
On a entendu parler de Madeleine Béjart.
Voilà,
déjà.
Alors... Il se trouve que Madame Béjart, elle a été la maîtresse d'un comte ou baron qui s'appelait Esprit Raymond, comte de Modène, qui avait grandi avec Gaston d'Orléans. Et elle a eu deux filles avec lui. La première meurt. Elle est reconnue et elle est baptisée à Saint-Eustache alors que c'est une enfant adultérine. Et il se trouve que la deuxième, qui naît en tournant de 42 et de janvier 43, à ce moment-là, Modène s'était laissé embarquer dans une conjuration contre Richelieu et Louis XIII. Il est en mauvaise posture. Il a besoin de la caution financière de sa femme qui s'était retirée dans le Maine. Et donc, la deuxième, on ne la reconnaît pas. Et on va la faire passer quelques
Armande.
Mois plus tard. Elle n'a pas de nom pour l'instant.
Pour l'instant
c'est une petite fille qui n'a pas de nom. Je vous expliquer pourquoi. C'est très amusant de voir pourquoi elle n'a pas de nom. Cette petite fille qui n'a pas de nom, on va la faire passer pour la fille de Joseph Béjart, le grand-père, enfin le père, qui est mort depuis un an et demi. Et de Marie Hervé, épouse Béjart, la mère, qui a 49 ans. Mais pour pouvoir donc créer cette fiction, on ne va pas la baptiser, on va attendre qu'elle soit assez grande pour qu'un an de plus, un an de moins, pour qu'on puisse la faire remonter sa date de naissance et qu'elle puisse être effectivement
crédible,
qu'elle soit la fille de Joseph Béjart.
De son grand-père et de sa grand-mère en réalité.
Voilà, voilà. C'est donc la fille de Madame Béjart et de Esprit Raymond, comte de Modène. Et elle est baptisée à quel moment? Probablement. Je suis le premier à avoir faire cette hypothèse, mais le seul endroit où, dans une ville, se sont réunies des personnes qui s'appelaient Armand ou Armande, Grézinde, Elisabeth, etc., c'est Montpellier au tournant de 53-54. Armand, c'est le prince de Conti, qui est le parrain d'Armande Béjart. Et Grézinde, c'est l'une des femmes, c'est la femme d'un des lieutenants généraux qui protégeait la troupe. Elisabeth, c'est le nom de la sœur du comte d'Aubijoux, etc. Et donc, elle est baptisée, en fait, en 54, à l'âge de 10 ans ou 11 ans.
Et donc, là, on la prénomme Armande.
Voilà.
Alors, ceci pose une autre question. Des mauvaises langues ont donc dit que Molière, qui avait été l'amant de Madeleine, aurait épousé Armande, sa propre fille.
Alors, lorsque Molière était en conflit avec les comédiennes de la troupe Riva de l'hôtel de Bourgogne, il s'est moqué d'eux dans une pièce qui s'appelle L'impromptu de Versailles, il les a imitées. Et le gros Montfleury, l'une des deux vedettes de l'hôtel de Bourgogne, a porté un placé au roi dans lequel il accuse Molière d'avoir épousé la fille après avoir autrefois couché avec la mère. On pense qu'il a été accusé par Montfleury d'inceste, mais pas du tout. Au nom du droit canon et de pratiques religieuses, et de la Bible même, ça remonte à la Bible, on ne peut pas épouser le fils ou la fille de quelqu'un avec qui on a vécu de façon charnelle, c'est-à-dire marié ou pas. Et donc, normalement, le pape devrait pouvoir faire casser le mariage de Molière et d'Armande Béjart parce que Molière a effectivement couché avec la mère d'Armande Béjart. C'était tout simple. C'était pour embarrasser Molière. C'était pour obliger Molière à demander au roi une dispense auprès du pape. C'était bon, vraiment bon. Mais il se trouve qu'il y a eu des gens qui ont plaisanté. Ouais, il épouse la fille, c'est sa fille, bien sûr, les comédiens. Il se trouve qu'on a un texte d'un médecin célèbre à l'époque, il s'appelle Guy Patin. Et il avait commencé à écrire un petit recueil de notes. Et dans ce recueil de notes, il parle de Molière, ce célèbre comédien, qui a une femme très jolie, qui est la fille d'une autre comédienne, et peut-être même sa propre fille, parce que ces gens-là n'y regardent pas de si près. Donc on voit comment ce qui a dû être plaisanterie dans certains milieux et chez les comédiens est devenu dans des milieux hostiles au théâtre, quelque chose comme « peut-être, c'est vrai », etc. Et après la mort de Molière, lorsque vont apparaître des pamphlets contre Armande Béjart, c'est là que ça va se déchaîner, on va dire. Elle est la fille de son mari, la femme de son père, etc. etc. Et...
ces gens-là n'y regardent pas de si près.
Voilà.
Sous-entendu, les comédiens, bien sûr.
Voilà.
On se retrouve demain pour conclure. Merci.